Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression que nous sommes à l'antenne, et si nous sommes à l'antenne, vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Il y a encore le générique qui court, mais ce n'est pas grave, comme c'est un joli générique, nous en sommes fort heureux.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Bon, c'est pas grave, la lumière est rouge.
Ni maître, ni publicité.
Et puis, maintenant, j'espère que vous m'entendez. Donc, si vous m'entendez, la vie est belle. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir dans Les Muses s'amusent, qui, vous le savez, existe grâce à la technique de Christiane. Et ce soir, nous avons comme invité Caroline Granier. Bonjour Caroline.
Bonsoir.
Bon, c'est hypocrite comme tout, parce qu'on s'est déjà dit bonjour et bonsoir, mais enfin, bon, c'est pas grave. Alors, Caroline Granier, je l'ai invitée parce que elle a fait un bouquin franchement bizarre. Des bouquins, j'en ai lu quelques milliers. Mais alors, celui-là particulièrement, il m'a vraiment surpris parce que on s'y attend pas. Alors, quel est le titre de ce bouquin ? Enquête. Alors, c'est pas une enquête, c'est on se met en quête d'héroïne. Ah non, il y a plein de calembours puisque... enquête, justement, c'est ambigu, ça peut être une enquête policière. Et puis, l'héroïne, c'est pas du tout ce que s'injecte Caroline tous les soirs dans les veines. Non, c'est pas vrai.
Absolument pas.
Non, elle est toute innocente, heureusement, Caroline. Donc, c'est en fait une quête des héroïnes, des femmes qui sont des héroïnes. Et ça a été publié chez une petite maison d'édition dont je ne savais rien, mais dont je me dis maintenant qu'elle doit être très bien, qui s'appelle... Ressouvenance au pluriel. Alors,
Ressouvenance, c'est Jean-Louis Paul qui a beaucoup réédité Les Communards, Malon, etc. Si, je suis sûre que tu le connais, que tu l'as croisé dans tous les salons du livre.
Voilà quelqu'un de bien.
Et c'est un éditeur complètement indépendant.
Ah, ça, c'est encore mieux, ça. Alors, Caroline, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que ce bouquin, ce que c'est que ce drôle d'OVNI qui m'a considérablement réjoui? Ça parle de quoi ?
Alors, ça parle, comme tu l'as dit, des polars, des romans policiers, des romans noirs, dont le héros est une femme. Et surtout, je voulais te remercier de nous inviter, moi et mes héroïnes, dans ton émission, puisque le polar étant une littérature de gare, avec les polars, c'est un petit peu la gare qui rentre dans le musée.
C'est un fait que cette émission étant normalement consacrée au musée, voici enfin.
Voilà.
Tu sais que le musée d'Orsay était une ancienne gare.
Exactement. Hein. Donc là, c'est un petit peu l'inverse. Voilà. On s'invite dans le musée. C'est pas le musée qui s'invite dans la gare. Et ça me fait très plaisir et c'est un honneur.
Je suis ravi. L'honneur est mutuel. Mais ça ne nous dit pas ce que c'est que ce livre étonnant.
Ce livre, en fait, le livre dont tu as parlé, c'est un petit peu le complément en fait, d'un premier essai que j'ai écrit en 2018, qui était une analyse de critique littéraire sur les romans policiers et sur le féminisme dans les romans policiers.
Pardon ? Le quoi dans les romans policiers ?
Voilà, je suis partie d'un constat. moi, j'ai toujours lu... Non, je me suis mise à lire beaucoup de romans policiers de plus en plus, et j'ai été à un moment un petit peu heurtée par un certain machisme, ou en tout cas... une sorte de connivence entre des auteurs masculins, des héros masculins et probablement des lecteurs qu'on attendait masculins, ou en tout cas qui pouvaient l'être. Et je me suis mise à partir à la recherche de romans policiers qui renversent un petit peu tous ces stéréotypes, qui sont un petit peu une littérature un peu alternative, plus féministe. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait tellement de découvertes que j'avais envie de parler de ces autrices ou auteurs, parce qu'il y a les deux, qui publient des romans dont le héros est une femme. Alors, c'est pas forcément féministe, hein, mais simplement le fait même de mettre un personnage féminin au centre d'une narration, et d'une narration qui est particulière, avec des codes très précis, hein. Voilà, on pourra en reparler tout à l'heure. En fait, ça provoque des choses, et je me suis aperçue que c'était pas anodin et que c'était très intéressant. Donc en 2018, voilà, je me suis dit, mais il faut quand même que j'écrive quelque chose là-dessus, parce que beaucoup de gens me posaient des questions, me disaient, tiens, mais je sais pas citer un seul nom d'autrice, ce qui était faux, en fait, on en connaît tous et toutes, mais c'est vrai que à l'époque, et encore maintenant, elles sont moins mises en avant, moins mises en valeur. Et puis, donc j'ai écrit un gros truc, parce qu'en fait, je me laisse vraiment facilement emporter quand je commence à faire des recherches. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi le polar ? Est-ce que pourquoi le polar serait machiste ? Ça date de quand ? Quelle est l'origine du polar ? Et puis, je me suis dit, mais est-ce que ça a toujours été comme ça ? Pourtant, il y a des autrices, alors pourquoi on en parle si peu ? Ah, mais en fait, c'est comme dans la littérature blanche. Alors, je suis partie faire des recherches sur les autrices dans la littérature non policière, et bon, ça m'a amené assez loin. Et puis je me suis intéressée au rapport genré à la violence, parce que le roman policier, c'est quand même un genre centré autour de la violence. En général, il y a un meurtre.
Et la violence masculine.
Au départ, et souvent c'est une violence masculine perpétrée par, voilà, les psychopathes sont à 98% des hommes. Et souvent, et le plus souvent, les victimes sont des femmes. Donc il y a quelque chose d'extrêmement genré, et c'est pas anodin de lire ce genre de littérature. Et le fait d'avoir un héros ou une héroïne qui vient rétablir l'ordre, ou en tout cas lutter contre ce désordre structurel de nos sociétés, c'était intéressant. Donc je me suis interrogée à la violence. Alors il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus, des études d'anthropologie, d'histoire sur l'évolution et pourquoi on a parfois cette idée complètement fausse que les femmes seraient essentiellement moins violentes que les hommes. Comment ça a été construit, comment ça a été fabriqué, cette idéologie. Donc ça m'a menée assez loin. J'avais envie de parler un peu de tout ça pour montrer un petit peu à mes lecteurs, lectrices, ce que j'avais découvert. Donc ça a donné un bouquin, bon, un peu long, un peu théorique, pas forcément facile à lire. Et du coup, je pense que...
Excuse-moi, le titre du livre ?
C'était « À armes égales ».
Donc, alors, on est bien d'accord que ce soir, nous parlons du petit livre, voilà, extrêmement lisible de Caroline Granier, « En quête d'héroïne », et que là, elle nous parle d'un livre précédent,
voilà,
qui s'appelle « À armes égales ». D'accord ?
Et c'est donc l'éditeur qui m'a proposé de faire un petit complément, en fait, où je développais un petit peu des personnages, des caractères. Ça serait en me disant, voilà, peut-être que les gens auraient plus de facilité, des gens qui ne sont pas forcément fans de polar, qui ne sont pas forcément féministes, qui n'ont pas envie d'avoir toute la théorie, mais qui veulent avoir un aperçu, en fait, de ce que je voulais montrer. Et je pense que le bouquin atteint son but, parce que voilà, j'ai l'impression, d'après les retours que j'ai, ça se lit beaucoup plus facilement. Évidemment, c'est beaucoup plus digeste. En fait, c'est pas fait pour être lu d'un trait. Ce sont des petits caractères, et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écrire chaque portrait, en fait,
tu vas un peu vite.
Ouais, je vais trop vite.
Pourquoi parles-tu de caractère et de portrait ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre ?
Oui, en fait, comment tu appelles ça ? L'ossature du livre,
le tronc
du livre, voilà, c'est 101 enquêtrice en série, j'ai appelé ça enquêtrice en série, comme on dit serial killer, on dit serial enquêteur, enquêtrice. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi donc des héroïnes qui revenaient dans des séries de romans.
Dans le bouquin, il y a une préface géniale dont on va parler dans quelques instants. Il y a 101 portrait résumé d'enquêtrice dans les polars, et il y a ensuite une conclusion également tout à fait surprenante. Donc voilà pourquoi Caroline nous parle de portraits et de caractères. Alors bien entendu, on reviendra sur cette notion de caractère qui est elle-même un vieux genre littéraire, et ça n'est pas l'un des moindres charmes de ce livre que Caroline révolutionne. Eh bien, ce genre du caractère, elle pensait faire juste une espèce de petit compendium de petites choses dans le polar. Et en fait, crac, elle prend un vieux genre classique et zlam, elle le change totalement. Dans ta préface, à nouveau, ta préface est réjouissante, complètement inattendue. Tout d'abord parce qu'elle s'appelle « Préface en forme de liste ». De liste en plus au pluriel. Alors, la première liste qui sort, c'est « choses » au pluriel. Qui m'interroge. Et alors, là aussi, ça devient ce livre est intéressant parce qu'a priori, c'était censé être un livre uniquement sur les autrices et les enquêtrices féminines. Et puis, mine de rien, c'est quand même aussi un petit peu un livre qui porte sur Caroline elle-même. La preuve en étant, cette première question, pour quelle raison suis-je irrésistiblement attiré par les histoires de meurtres les plus horribles alors que je suis si fondamentalement et profondément angoissé. Donc, Caroline, aurais-tu la gentillesse de répondre à l'antenne à cette question que tu te poses à toi-même ?
Oui. En fait, j'ai mis des années, mais j'ai fini par comprendre que cette littérature agissait sur moi comme une sorte d'exutoire, en fait. C'est-à-dire qu'en mettant devant moi, sous mes yeux, des choses abominables, hein, parce que il y a certains romans policiers que je lis qui sont assez noirs, on va dire.
Et... Pour ne pas dire rouge sang, dégoulinant.
C'est ça. Et bien, en fait, ça, quelque part, ça met à distance, c'est comme une catharsis, ça met en distance mes angoisses. Et puis, à la fin, il y a quand même ce personnage de l'enquêtrice qui vient mettre un petit peu de... Alors, parfois d'ordre, mais c'est pas forcément l'ordre comme on l'entend, mais en tout cas, qui vient essayer de trouver une certaine justice.
Voilà, il me semble que c'est plus la notion de justice que la notion d'ordre.
Parce que la notion d'ordre, elle est très très critiquable, et elle est parfois justement critiquée dans ses romans aussi, parce qu'à quel ordre on revient ? Un ordre qui satisfait personne, en fait, et surtout pas les femmes, si on parle d'un ordre patriarcal. Et donc, on voit des portraits de battantes, des portraits de femmes qui luttent, qui ne se laissent pas faire, et quelque part, c'est des histoires de dignité.
Alors, deux choses. Tout d'abord, est-ce que donc ce sont des portraits de femmes sans angoisse ?
Ah non. La plupart, justement, non, je pense que quand on est de toute façon en prise avec cette noirceur-là, on ne peut pas s'en sortir complètement indemne. Et la plupart sont des femmes... très très abîmée, ou en tout cas il y en
Attention,
a pas mal
abîmée qui... ou angoissée.
Chacune a sa façon de répondre à l'angoisse. Il y en a, ça va être la bagarre, et puis d'autres, ça va être la boisson, et puis parfois ça peut aussi, ça laisse des traces.
La vieille définition du courage, ça n'est pas d'avoir peur, c'est d'être capable de surmonter sa peur. Est-ce que ça correspond à ce que font ces enquêtrices ?
Oui, alors il y a plein d'exemples différents. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans tous ces personnages très divers. C'est qu'il n'y a pas un type particulier et qu'on trouve vraiment mille façons d'être enquêtrice. Mille façons d'être féministe, mille façons de faire face à la noirceur du monde. Et je ajoute quand même quelque chose, c'est que c'est vraiment ma sélection. Hein. Il n'y a rien d'exhaustif. Il n'y a rien de...
C'est pour ça que c'est intéressant.
Oui, complètement. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai parlé de moi dans la préface, parce qu'on pourrait dire, tiens, mais je n'ai pas trouvé telle héroïne, mais pourquoi tu parles toujours d'héroïne complètement névrosée, complètement alcoolique. C'est vrai qu'il y a plein d'alcooliques dans cette sélection. On peut se dire, tiens, est-ce que ce n'est pas du tout représentatif. Mais simplement, c'est celle qui m'intéressait le plus. Pourquoi ? Parce que c'est celles qui, justement, sont le plus critiques. C'est celles qui ne sont pas adaptées à la société. C'est celles qui trouvent que le monde est mal fait et que c'est insupportable. Et c'est bien sûr vers elle que j'avais envie d'aller, et pas vers des policières pour qui tout va bien et qui font leur boulot sans se poser de questions.
Christiane ?
Oui, moi j'avais envie de te demander, Caroline, à peu près, est-ce qu'il y a un moment où il y a eu ce tournant, justement, où, disons, les femmes se sont mises plus à écrire ce genre de polar ?
Il y a eu plusieurs tournants. On pourrait dire que les femmes sont à l'origine déjà du roman policier. Il y a eu pas mal d'études là-dessus. Hein. La première autrice de roman policier serait une femme. Mais en même temps, après, il y a eu les années 70, où il y avait pas mal de femmes qui ont investi les premières collections de romans policiers, mais qui étaient quand même minoritaires, et puis qu'on a oublié, hein, qu'on lit plus, qui sont plus tellement rééditées. Et puis, il y a une autre vague assez massive dans les années 90, hein, la génération un peu dépente, etc., avec des femmes qui sont beaucoup très offensives, hein, qui écrivent des choses très très dures, des hard-boiled, de la littérature dure à cuire, etc. Et là, de nouveau, les journaux ont faim de découvrir le phénomène. Alors, il y a eu des tas de titres, les femmes envahissent le polar, les femmes se réveillent à l'assaut de la littérature noire, alors qu'en fait, elles ont toujours été là, simplement, la plupart du temps, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, alors j'arrive pas à trouver des chiffres précis, mais je pense qu'il y a énormément d'auteurs de femmes de romans policiers. J'arrive pas à trouver des statistiques, mais il me semble que c'est moitié-moitié, hein. Mondialement en tout cas. Hein. Si on regarde la littérature anglo-saxonne, par exemple, dans les pays nordiques, il y en a énormément.
Et est-ce que ça croise justement le phénomène qu'on peut constater depuis un certain nombre d'années par rapport aux héroïnes au cinéma ? Où il y a beaucoup, beaucoup maintenant des femmes qui sont, qu'elles soient policières ou qu'elles soient dans la vie, enfin non policières, eh bien elles sont vraiment complètement des antagonistes et non pas des ou les victimes ou celles qui sont à
côté. Adjuvantes. Ouais. Je pense que ça, il y a un temps de retard. La littérature a un temps de retard. Le cinéma était plus en avance de ce côté-là et quand on regarde les séries policières que je connais très très mal, mais tout le monde m'en parle, ça a bougé beaucoup plus vite que dans les romans, je dirais.
Alors, je voudrais te poser une troisième question, parce que c'est la deuxième question que tu poses dans la préface, et celle-là, elle me concerne un tout petit peu, parce que tu dis « Pourquoi, moi qui ai fait des études de lettres, et me suis extasié sur le style de Proust, ai-je soudain une telle passion pour les romans de gare ?» Alors, je complète ma question, parce que nous avons une chose en commun, toi et moi, nous aimons énormément la littérature. Moi, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être des francophones. Nous lisons et nous parlons et nous écrivons une langue absolument magnifique, avec des chefs-d'œuvre, en veux-tu, en voilà. Et Caroline, il faut que je te confesse quelque chose. Le polar, ça me fait chier. Et la raison pour laquelle le polar m'ennuie, c'est donc effectivement c'est une littérature extrêmement codée, mais après tout, il y a des tas de littératures extrêmement codées que j'aime beaucoup. Mais très souvent, effectivement, du point de vue de la langue, c'est extrêmement relâché. Et donc, ma question est, pourquoi est-ce que quelqu'un comme toi qui écrit fort bien et qui connaît très bien la littérature, alors je ne vais pas dire grande, je vais dire la littérature classique, la littérature plus formelle, plus soutenue, pour utiliser un mot fréquent, pourquoi donc as-tu une telle passion pour les romans de gare ? Alors, entendons-nous bien, ma question est aussi, est-ce que c'est simplement parce que c'est le fond qui t'intéresse, parce que c'est l'univers en question qui t'intéresse, ou bien est-ce que quelque part c'est aussi l'espèce de défi qu'il y a à lire des livres qui t'intéressent quand même, malgré leur langage relâché ou pas très recherché, pas très recherché, non pas au sens poli du mot, mais au sens purement intellectuel. Est-ce qu'il y a un véritable effort de la part des auteurs et des autrices et des auteurs, pour travailler leur style, même si c'est éventuellement un style qui semble relâché?
Alors, pour te répondre, on va remonter 25 ans en arrière, parce que moi j'ai fait ma thèse sur les écrivains anarchistes, ma thèse de doctorat. Et à l'époque, ce qui m'a frappée, c'est que beaucoup de grands écrivains du 19e siècle, je m'intéressais à l'époque juste après la Commune, étaient réactionnaires en fait, écrivaient des bouquins idéologiquement abjects, abominables. Et que les écrivains anarchistes qui défendaient des idées extrêmement novatrices et belles et enthousiasmantes, parfois étaient, on disait non mais c'est pas de la grande littérature ça. Alors ça l'était pas toujours, il y avait effectivement beaucoup d'ouvriers, d'autodidactes qui écrivaient. Et il y avait de tout, en fait. Mais du coup, je me suis interrogée sur qu'est-ce que la grande littérature, déjà. Et ça, c'est, je pense que vraiment, pour moi, c'est une question qui ne fait pas sens. Quand on regarde... Alors, j'ai pas mal travaillé aussi sur les romans de Louise Michel. Louise Michel, elle a écrit des tonnes et des tonnes de romans, pas toujours au style très léché, très travaillé, parce que parfois, elle écrivait en prison, elle n'avait pas le temps de se relire. Et certains pourraient dire que c'est pas intéressant, que c'est bâclé, que voilà. Et en fait, il y a des choses extraordinaires. Il y a des fulgurances, il y a des moments de poésie, il y a un style assez nouveau. Voilà, qu'est-ce qu'on met derrière grande littérature ? Et moi, j'ai beaucoup aimé le style de Louise Michel et de bien d'autres. Et en fait, je pense que derrière ces étiquettes qu'on va apposer hein, sur tel genre, tel écrivain qui mérite d'être retenu, etc., il y a beaucoup d'idéologie derrière. Et moi, je dirais que c'est la même chose pour le roman policier, parce que si tu lis un petit peu les auteurs dont je parle, il y a de tout. Alors, il y en a effectivement qui sont écrits à la va-vite, et puis le style n'est pas très intéressant, mais pas tous. Et puis parfois, la frontière entre littérature blanche et littérature noire est floue, et elle tend de plus en plus à disparaître. Il y a des prix Goncourt qui écrivent maintenant des romans, ça pourrait être classé dans la littérature policière. Donc cette idée de classement, de catégorie, de ce qu'on met derrière, pourquoi un auteur tout d'un coup va sortir du lot et puis on va dire « Ah non, ça c'est pas du polar, c'est mieux ». Voilà, je pense qu'il faut vraiment... Moi, ça m'a amené à réfléchir là-dessus. Et du coup, c'est vrai que les catégories m'intéressent moins. Ceci dit, pour répondre franchement, je crois que je m'en fiche du style maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, ma passion pour la littérature va davantage au fond, ce que tu appelles le fond. Je crois que c'est quand même tellement difficile hein, de séparer le fond et la forme. Mais voilà, moi, ce qui m'a guidée, en tout cas en écrivant cet essai, c'est vraiment... Qu'en est-il de l'idéologie qu'il y a derrière ça? Quelles idées on essaye de faire passer? Alors des fois, je vois bien qu'il y a des grosses ficelles. Des fois, c'est pas terrible, etc. Mais moi, je m'en fiche parce que c'est jouissif, parce que ça passe, parce que ça marche. Et parce que aussi, cette littérature, elle a eu sur moi des effets extraordinaires. Et voilà, j'ai plaisir à lire ça, même quand c'est pas très bien écrit, beaucoup plus qu'un auteur qui serait réputé avec un style plus élaboré, mais avec des idées abjectes.
Alors, avant notre pause musicale, juste un bref rappel, ce serait étonnant que la quasi-totalité des auditrices et auditeurs ne connaissent pas ces deux noms, mais je rappelle que parmi les écrivains anarchistes de la fin du 19e siècle, Élisée Reclus et Kropotkine, ah, oh, quelle merveille!
Et Mirbeau.
Et Mirbeau aussi.
La marque poudrée sur le front, cette trace rouge qui m'a fait lever le poing. Contre celui qu'on lève sur l'intouchable, la veuve et l'orpheline et tout ce que l'on opprime. De bâtons, nous parlons fort et devant les maisons, la rage et l'amour chevillés au cœur. Chaque jour nous démêlerons le sort, le gang des sarirons se bat encore. Je suis née être mère, née pour être justicière. Si mon foulard blanc est tout maculé de sang, ce bout de tissu deviendra notre de bergère, mon sari rose, mon sari de combat, et l'on nous reconnaîtra. Vêtus de rose et munis de bâtons, nous avançons jusque dans les maisons. La rage et l'amour chevillés au cœur, mon regard de justicière, vous verrez la nuit toute maquillée de rose, et que la lune aussi a rallié notre de bâtons, nous veillerons que dans toutes les maisons, la rage et l'amour vous guident chaque jour, plus forte encore grâce à notre bravoure. Le gang des saris, on se bat toujours, vêtus de rose et munis de bâtons, nous veillerons que dans toutes les maisons.
Alors c'était le gang des saris roses, et ça, et c'est donc chanté et interprété par le groupe Rimendo.
Au cas où vous ne le sauriez pas, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité, l'émission Ce sont les Muses s'amusent, avec Christiane à la technique et notre invitée Caroline Granier, qui nous parle de son drôle de livre, mais ce livre réjouissant, et attention, il y a deux calembours dans le titre, Enquête d'héroïne, et qui a été publié chez Ressouvenance. Alors, l'une des choses intéressantes, l'une des nombreuses choses intéressantes qu'il y a dans cette préface, c'est que Caroline nous donne tout d'abord les professions des enquêtrices. Alors Caroline, aurais-tu la gentillesse de nous lire les professions? On n'a pas nécessairement besoin de toutes les dames, mais en tout cas leur profession, ça c'est pas mal.
Alors sur 101 enquêtrices que j'ai sélectionnées, la moitié, ce sont des policières.
Personne n'est parfait.
On trouve ensuite 18% environ de détectives privés. Alors, c'est surtout aux États-Unis. Hein, y en a quelques-unes en France, mais ce n'est pas très, très courant.
Oui, le détective privé français ou française ne vit pas une vie particulièrement aventureuse. Nous
voilà.
Sommes d'accord.
Il y a bien sûr des profileuses. Mmh. Le personnage de la légiste est à la mode, hein, tout le monde connaît peut-être Qu'Escarpetta.
La Caroline, je me permettrai de t'interrompre. Non, c'est quoi une légiste?
Ah, une légiste, eh ben, c'est la personne qui fait les autopsies donc en cas de mort suspecte.
C'est une médecin légiste, donc?
Oui, d'accord. Pardon. Ouais, oui. Une médecin légiste.
Splendide comme métier. Souvenons-nous que régulièrement, quand les médecins légistes invitent des gens devant leurs autopsies, même des durs à cuire s'évanouissent. C'est connu à la morgue. Les gars invitent, par exemple, des journalistes de guerre et ils s'évanouissent devant le spectacle de l'autopsie.
Ouais, et dans tous les romans quasiment où les policiers vont, policières vont assister à une autopsie, il y a ce topos qui revient, c'est faut que je sois dure parce qu'en tant que femme, j'ai pas le droit de m'évanouir. Un mec il peut faire ça, on va dire bon, il est un peu sensible, mais une nana tout de suite on va dire c'est parce qu'elle est une femme. Et donc il y a une injonction plus grande qui pèse sur les femmes. Qui se sentent obligés quoi, d'assister aux autopsies sans fermer les yeux. Donc, anthropologue judiciaire aussi, c'est une variante. J'ai quelques personnages de procureurs, des avocates,
bien sûr
des journalistes, quelques assistantes sociales.
Ça, c'est quand même fabuleux. L'assistante sociale en enquêtrice de crime, c'est une très bonne trouvaille.
Alors, par exemple, il y a une indienne, hein, parce qu'en Inde, c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'être dans ce milieu-là. Et elle, en tant qu'assistante sociale, elle est habituée à recevoir des confidences. On ne se méfie pas d'elle. Avec son sari, elle fait toute sage. Et en fait, c'est une redoutable enquêtrice. Quelques psychothérapeutes. Alors là, c'est fascinant aussi. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une Anglaise, Frida Klein. Elle mène une enquête, en fait, comme elle va à la recherche des névroses de ses patients, en cherchant des symptômes, en essayant de voir où ça l'amène, cherchant les indices, le non-dit, et comment on peut guérir, c'est de la société, comme on guérit un patient, c'est absolument extraordinaire.
Caroline, ma maman était psychothérapeute.
c'est celle que je préfère, je crois.
Magnifique.
Et puis, des femmes qui ont accès aussi à toutes les bizarreries de l'âme humaine, et donc tous les méandres des esprits un peu tordus.
Les esprits un peu tordus, c'est-à-dire l'esprit humain normal de base, qui est par définition complètement tordu dans tous les sens. Continue.
J'ai une garde du corps.
Tant qu'à faire.
Une femme qui est ranger aux États-Unis dans les parcs nationaux, et ça c'est absolument génial, parce qu'elle est très écolo, et ce qu'elle aime
Je rappelle que les rangers dans les parcs nationaux aux États-Unis sont tout simplement ce qu'on appellerait en France, nous, les gardiens des parcs.
C'est un peu plus compliqué qu'un gardien. Oui, sauf que les parcs sont immenses, et ils ont un rôle de maintien de l'ordre, ils sont tous armés aussi. Ils ont une formation de policiers pour avoir leur arme, pour pouvoir détenir une arme, parce que parfois, ils sont amenés à enquêter sur les chasseurs illégaux, des choses comme ça. Et parfois, des meurtres. Donc là, il y a ce personnage qui est absolument magnifique, une Américaine. J'ai une enseignante et guide.
Comment ça, guide touristique ?
Kiglatouk, attends que je me rappelle, c'est parce que... Attends, je reprends mon personnage, elle est inuite, voilà, je ne voulais pas dire de bêtises. Elle est inuite et elle vient d'un petit village dans l'extrême arctique canadien. Elle peut pas vivre de son métier d'enseignante. Enfin, elle est à mi-temps, elle est guide et puis elle est amenée à mener des enquêtes. Donc oui, elle est non, elle est pas guide touristique.
Pardon. Je suis pas tout à fait ça. Je suis guide touristique de mon métier, c'est pour ça que je suis très déçue.
Voilà, c'est une chasseuse aussi. Alors j'ai une éboueuse.
Ça m'a vraiment fait plaisir.
C'est extraordinaire, c'est une Italienne. Qui est boueuse, anarchiste.
Je voudrais signaler qu'à Paris, nous avons un musée des égouts, extraordinairement intéressant. Je ne saurais trop en recommander la visite.
Alors, on y mène des enquêtes ?
Alors écoute, moi personnellement, j'ai cherché beaucoup les cadavres, je ne les ai pas encore trouvés, sauf les cadavres de rats, enfin bon. Histoire classique en France, c'est grâce au capitalisme et au libéralisme. Quand j'ai commencé dans mon métier de guide à faire visiter le musée des égouts, il y avait des vrais éboueurs. Des gens qui étaient des fonctionnaires de la ville de Paris et qui passaient 20 ans, 30 ans dans les égouts. Et maintenant, qui sont les éboueurs ? C'est des boîtes de sous-traitants. Et donc, on met des immigrés, et on leur donne beaucoup moins de matériel de sécurité, on leur enseigne beaucoup moins les règles de sécurité. Donc, évidemment, mine de rien, ils deviennent malades beaucoup plus vite. Je rappelle que puisqu'on est en plein problème des retraites, les éboueurs, si je me souviens bien, la retraite, c'était à 55 ans. Et il y en avait plein qui n'arrivaient pas à la retraite. Parce que être éboueur, ça peut être très dangereux, puisqu'on manipule des tas de choses étonnantes. Alors, il y a les éboueurs dans les égouts, il y a les égoutiers, il y a de tout. Et donc, c'est beau métier. Donc, vive les éboueurs. Christiane.
Oui, moi, j'avais une question pour Caroline, concernant justement, tout à l'heure, tu disais qu'en général, il y a beaucoup de personnages qui mènent des enquêtes et qui sont des femmes flics. Et en général, et Jean-Manuel disait, ben oui, bien sûr, parce qu'elles sont straight, il n'y a pas de problème, etc. Or, là, il y a un film qui est sorti, juste maintenant, qui s'appelle... j'ai noté, parce que ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, justement, dans le milieu, qui s'appelle Misanthrope, qui est un film hollywoodien, je vous dis tout de suite, avec beaucoup de mouvements de caméra, mais c'est bien fichu. C'est-à-dire que c'est réalisé par Damien Safran, celui qui avait fait Les Nouveaux Sauvages, qui a un côté un peu... voilà. Mais là, il a fait donc, c'est sur un serial killer qui tue sans aucune raison, et justement, c'est contre le système. Et la personne qui va dénouer tout ça, elle fait partie de la police, mais... elle a été, elle a voulu faire partie du FBI, mais ça n'a pas été possible parce qu'elle a été droguée, malade, en HP, machin, donc déjà compliqué. Et finalement, elle revient, le mec du FBI la prend parce qu'il dit, ah, elle va comprendre ce qui se passe dans la tête du meurtrier.
Oui, oui, j'en ai. En fait, les policières que j'ai sélectionnées, souvent, c'est des policières un petit peu atypiques, ou en tout cas critiques de l'institution, et parfois avec des passées, pas tout à fait habituelles, hein, c'est sûr. Alors, parce que c'est celle que je trouvais le plus intéressante, évidemment. C'est pas celle qui se sente bien dans l'institution. Donc, c'est vrai que ça correspond un petit peu au genre de personnage que je peux avoir dans ce livre, hein, tout à fait.
Alors, le métier suivant, encore plus surprenant.
Alors, il y a une femme de ménage, femme de ménage qui s'appelle Blanche White.
Qui doit évidemment
qui en plus
être.
Et noire.
Voilà, bien entendu.
Et donc, c'est des romans complètement intersectionnels où elle dénonce à la fois la classe, la race, le genre. Mmh. Voilà. J'ai une catcheuse. Alors, ça, c'est un personnage superbe aussi. Elle est catcheuse. Elle vit dans une vieille caravane sans argent et tout ce qui. Voilà, elle sait très bien se battre. Une sculptrice, professeure d'haltérophilie.
Alors ça, c'est plus rare quand même.
Oui. Une masseuse et stripteaseuse, peut-être pour certaines connaissent, c'est le personnage de Dominique Sylvain. Elle a créé un couple d'enquêtrices, Ingrid Diesel, une américaine, et puis Lola, qui est une policière parisienne, commissaire à la retraite. Lola Jost. Et j'ai une ancienne serveuse de bar, une chauffeuse de taxi. Voilà, c'était un petit peu pour donner un aperçu aussi. Il n'y a pas que des flics.
Alors, c'est donc une liste à la Prévert absolument fabuleuse. Mais juste après, sur la même page, il y a une liste qui est encore meilleure. Parce que cette liste s'intitule « Manière d'être féministe ». Manière au pluriel, bien entendu. Donc, Caroline, aurais-tu la gentillesse ? On ne t'entend pas.
Attends, voilà, ça y est, ouais. Vous m'entendez. Je veux dire, quand tu dis manière au pluriel, et féministe au pluriel.
Non, féministe au singulier.
En fait, c'était un petit hommage à Baptiste Morisot, que j'aime beaucoup, qui a écrit « Manière d'être vivant ». En disant, voilà, on a plusieurs expériences, qu'on soit animaux, humains, animaux non humains, de percevoir le monde.
Excuse-moi de t'interrompre, si jamais Baptiste Morisot nous écoute, ou si quelqu'un qui connaît Baptiste Morisot nous écoute, alors j'ai très envie de l'inviter. Ah oui, parce que franchement, c'est... Ah ben voilà, c'est
moi, je veux bien être là aussi.
Ah oui, parce que c'est très intéressant. Continue.
Voilà, et donc c'était un petit peu en pensant à son titre. Et aussi, c'est un peu en réponse à toutes les crispations qu'on sent beaucoup dans le milieu féministe, je trouve particulièrement ces dernières années, où parfois on est jugé parce que voilà, ça c'est pas féministe, il faut être féministe comme ça. Alors entre ceux qui défendent la prostitution et ceux qui sont contre la prostitution, on a connu ça il y a longtemps avec les pro-voiles et les anti-voiles, et ça continue, je trouve que c'est de pire en pire, et c'est toujours quelque chose qui moi me dérange énormément, parce que je trouve que pour moi le féminisme c'est une histoire d'émancipation, et l'émancipation elle se fait en situation. Il y a des situations où, par exemple, pour s'émanciper une femme va mettre un voile, mais dans d'autres situations s'émanciper ça veut dire l'enlever. Donc je voulais montrer comment pour moi c'était important de pas se crisper à des mots, à des étiquettes en fait.
Et à des chapelles. Vraiment... Allez, on va être très très méchants. Oui, oui. À des chapelles. Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni chapelle, bien entendu.
Voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et en fait, quand j'ai fait ces portraits, c'est sans une femme, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ça illustre vraiment ça. Chacune est féministe à sa façon. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de résumer avec cette liste.
Alors, on écoute.
Donc, pour moi, être féministe, ça peut être savoir se défendre toute seule.
Bon, ça, d'accord.
Refuser de se maquiller, de porter des talons hauts. Oui, mais, je continue.
Oh, d'accord.
Être forte. Boire plus que de raison.
Comment ça ?
Aimer les rencontres d'un soir. Ne pas vouloir d'enfant. Assumer ses talons hauts et ses fringues sexy.
On aura noté la contradiction.
Accepter ses faiblesses. Vouloir des enfants.
Wow.
Et une carrière aussi. Rouler vite à moto. Se sentir solidaire des autres femmes. Revendiquer le droit à l'erreur. Refuser de perdre le contrôle. Choisir sa famille. Tomber amoureuse. Abuser du pouvoir. Se méfier du pouvoir. Choisir qui l'on veut être. Ne pas s'attacher. Ne pas avoir honte d'avoir ses règles. Prendre des risques. Tomber, se relever toujours.
Merveilleuse liste. Et je voudrais que tu nous lises ensuite une longue citation, une excellente citation. C'est surtout sur la fin qu'elle est de plus en plus intéressante. Et tu dis donc, page 19, « Beaucoup de ces détectives pourraient reprendre à leur compte cette affirmation de Belinda Canone. Ça vient d'un livre qui s'appelle « La tentation de Pénélope » paru chez Stock. Aurais-tu donc la gentillesse de nous lire tout ça ?»
Voilà, c'est un essai que j'avais lu en 2010, mais c'est vrai que cette citation me parle toujours. Et voilà ce qu'écrivait Belinda Canone. « Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'être une femme. » Mais je suis sûre de vouloir faire de nombreuses choses, dont la plupart pourraient également être faites par des hommes d'ailleurs. Et mon seul souci est qu'on ne m'empêche pas, sous prétexte que je suis une femme, de les faire. En ce sens, la question de l'identité, passé l'adolescence, me paraît secondaire par rapport à celle de la liberté d'agir. C'est pourquoi je propose d'inverser les priorités et de rechercher toujours la liberté au lieu d'une insaisissable identité.
Ah.
Bon, c'est une citation qui plaît beaucoup aux libertaires.
Absolument. Et donc, on va avoir un peu de musique.
Trois quinquennats de désillusion et le bouillon vira marron, marron. Ce que nous sommes, déglaçons le bouillon à l'optimisme et à l'insurrection. Déglaçons le bouillon à l'optimisme et à l'insurrection. J'ai libéré ma colère. Ironisons sur toutes
Vous êtes sur Radio Libertaire, les muses s'amusent et vous venez d'entendre Résistante, au pluriel, par les fameuses T.
Donc nous sommes bien effectivement dans les muses s'amusent, Christiane à la technique, notre invitée étant Caroline Granier, qui a écrit un drôle de livre bizarre et aussi bizarre que réjouissant, qui s'appelle Enquête d'héroïne, avec des calembours dans le titre dans tous les sens. Et le cœur du livre, eh bien, ce sont 101 portraits d'enquêtrices. Et immédiatement, quand on les lit, on se dit mais ça me rappelle quelque chose. Eh bien, ça rappelle un grand genre littéraire qui est le genre des caractères. Et pour mieux vous faire comprendre de quoi il est question, Caroline va nous lire le premier caractère. Alors, attention, c'est gratiné. C'est pas exactement ce à quoi vous attendez. Caroline, nous t'écoutons.
Ah, je croyais que j'allais lire la bruyère. J'avais pas bien compris. Alors, mon premier portrait, c'est Élise Andrioli, et par le hasard de l'ordre alphabétique, donc je commence par elle, et c'est vrai que c'est pas mal, parce qu'elle est assez emblématique pour moi. Donc c'est une héroïne française créée par Brigitte Aubert, que voilà, si vous lisez des polars, vous connaissez peut-être, elle a écrit énormément de choses assez diverses, et dans trois de ses romans, elle a une héroïne récurrente, qui s'appelle Élise Andrioli. Je commence par une petite citation. En fait, dans chaque portrait, il y a une citation qui permet de rentrer un petit peu dans la voix, d'entendre la voix de l'auteur. Donc, citation. Je rêve souvent d'avoir un Magnum 45 et de le pointer sur tous les cons qui me cassent les pieds. Très politiquement incorrect, mais très gratifiant comme fantasme. C'est un extrait du roman qui s'appelle La mort au Festival de Cannes, paru en 2015. Donc, voici le personnage. Devenue tétraplégique, muette et aveugle à la suite d'un attentat, Élise Andrioli communique avec sa fidèle amie Yvette en écrivant ou en faisant des signes avec sa main gauche, avant d'acquérir un ordinateur à synthèse vocale dans les volumes suivants. Se trouvant malgré elle plongée dans des affaires de meurtre, et alors que certains voudraient voir en elle une victime incarnée, je cite « un tas de viande posée sur un fauteuil », elle trouve pourtant les ressources nécessaires pour dépasser la peur et l'impuissance. Se mêlant à l'enquête, elle aide parfois à la résolution de l'énigme. Munie d'un fort sens de l'autodérision qui la protège de l'apitoiement, elle n'hésite pas à se plaindre à son auteur, avec un grand A, qui relate ses aventures.
Alors, ça, franchement, à nouveau, dans le genre classique des caractères, c'est très inattendu parce que on aurait l'impression que, si on lisait ça sans connaître tellement le contexte, qu'on a là décrit une personne réelle. Alors évidemment, une personne tout à fait étonnante. Les tétraplégiques, muettes et aveugles sont rarement des enquêtrices policières. Mais il y a un fort effet de vérité. Et qui est d'autant plus remarquable qu'il est produit dans un texte extrêmement court. Et ça, c'est effectivement, c'est toujours l'idée de ce genre des caractères. Alors, quand on va voir ce que c'est que le caractère originellement, eh bien, il y a une définition de ce mot en grec. Et là, je cite, si je me souviens bien, Wikipédia. Platon, dans les lois, explique le sens premier de ce mot en grec. Et attention, ça va pas être mal. La marque de reconnaissance infligée aux esclaves. Lorsqu'on aura pris un homme en train de piller un temple, qu'il soit esclave ou étranger, on lui mettra sur le visage et sur les mains la marque de son crime. Alors, on comprend par là pourquoi chaque portrait de Théophras, alors je rappelle que Théophras est le premier auteur à avoir écrit explicitement des caractères, on comprend par là pourquoi chaque portrait de Théophras est celui d'un défaut. La notion de caractère n'a pas la même signification à l'époque de Théophras et à l'époque contemporaine. La nuance est grande entre le caractère moral et le caractère dont il est question dans le recueil où il s'agit de mettre sous les yeux les vices en action. L'ouvrage n'est qu'une simple instruction sur les mœurs des hommes visant moins à rendre savant qu'à rendre sage. Alors, pour comprendre ce que Théophraste a pondu, Il y a une liste, je ne vais pas la lire toute, mais il y a une liste des caractères qu'il a écrits, alors dont on peut tirer l'hypocrite, l'obséquieux, le verbeux, le malotru, le prévenant, le superstitieux, le dégoûtant, le radin, le lâche, l'oligarque. Ne me demandez pas ce que c'est que l'opsimate, le médisant, le pervers et le cupide. Alors, il les a écrits comment ces caractères, notre bon Théophras, cet auteur grec. Bien, par exemple, pour ce qui est du radin, voilà ce qu'il nous dit. Cette espèce d'avarice est dans les hommes une passion de vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin honnête. C'est dans cet esprit que quelques-uns, faisant l'effort de donner à manger chez eux, ne sont occupés pendant le repas qu'à compter le nombre de fois que chacun des conviés demande à boire. Ce sont eux encore dans la portion des viandes que l'on sacrifie sur l'autel de Diane, et toujours la plus petite. Implacable à l'égard d'un valet qui aura laissé tomber un pot de terre ou cassé par malheur quelques vases d'argile, ils lui déduisent cette perte sur sa nourriture. Mais si leurs femmes ont perdu seulement un denier, il faut alors renverser toute une maison, déranger les lits, transporter des coffres et chercher dans les recoins les plus cachés. Il n'est permis à personne de cueillir une figue dans leur jardin, de passer au travers de leur champ, de ramasser une petite branche de palmier ou quelques olives qui seront tombées de l'arbre. Alors, ces caractères de Théophraste ont inspiré, bien des siècles plus tard, l'un des grands classiques de la littérature blanche, de la littérature soutenue, bien entendu, les célébrissimes caractères de la Bruyère. Alors, il y en a un que tout le monde connaît, mais qu'on va reprendre parce qu'il est quand même tout à fait réjouissant. Arias a tout lu, a tout vu. Il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à la table d'une cour du Nord. Il prend la parole et l'hôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes. Et il en rit le premier, jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. Je n'avance, dit-il. Je raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de Céton, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé, et qui ne m'a caché aucune circonstance. Il reprend le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'a commencé lorsque l'un des conviés lui glisse. « C'est Céton à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade. » Donc, voilà les ancêtres auxquels, Caroline, tu te confrontes. Et moi, je trouve personnellement que tes petites vignettes qui nous résument les personnages d'enquêtrice sont remarquablement bien fichu, parce que ça nous donne exactement comme ces caractères-là, ben, ça nous donne en quelques lignes ben, une personne. Tout d'un coup, cette personne-là vit. Et bien entendu, dans les deux cas précédents, c'était aussi une personne relativement fictive, encore que je soupçonne que la Bruyère, le bon Arias, il a dû en voir, on sait bien en France, il y en a encore plein comme ça. Mais ça fonctionne quand même. Tout à fait bien. Est-ce que tu pourrais donc, Caroline, nous en lire deux ou trois autres ?
Oui, alors je rebondis sur ce que tu viens de dire aussi. Effectivement, je parle de personnes fictives, mais j'en parle comme si elles existaient réellement, parce qu'en fait, pour moi, ce sont comme des amis que je côtoie pendant plusieurs jours, le temps que je lis le livre. Et c'est vrai que j'ai voulu faire un petit peu, je les ai traités comme un échantillon de la population, comme si je faisais une enquête sociologique. Et c'est vrai que je vais vers elles avec des questions. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce travail? Et qu'est-ce que tu aimes boire? Et ta vie sentimentale, comme on sait? et je les pose un peu à toutes. Et l'idée, c'est ça, c'est voilà, un jour, vous voulez les inviter chez vous, bah voilà ce qu'il faut savoir sur elles, deux ou trois choses que je sais d'elles. Donc c'était l'idée, c'était vraiment d'en parler comme des amis. Alors peut-être, je vais couper
incidemment, juste cette histoire de l'amitié d'un personnage littéraire, petite anecdote personnelle. Quand j'ai lu Balzac, alors pareil, j'ai éprouvé pour Balzac la même passion que tu éprouves pour les romans policiers. Alors évidemment, Balzac, on sait que politiquement, il est à vomir. Mais alors, quel romancier extraordinaire.
Non, pas forcément. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Non, mais absolument pas. Moi, je trouve que Balzac est un des écrivains qui a le mieux écrit sur l'argent. Et avec tout à fait critique. Je ne vois pas en quoi il était... Bon, qu'il soit un peu profiteur et qu'il jongle avec le système, ok, mais là, non. Là, tu pars dans des...
Non.
Alors, écoute, moi, en tant que femme et en tant qu'enquêtrice, je ne suis pas du tout d'accord.
Alors, en tant qu'enquêtrice, je peux te le dire, tu te plantes complètement. Non,
ça, c'est parce que tu as le micro, mais sinon... Mais moi aussi, j'ai le micro, attention.
Non, Balzac, politiquement, est abominable parce qu'il est monarchiste et catholique. Ce n'est pas tellement sur l'argent, parce qu'effectivement, c'est fabuleux, parce qu'il était lui-même... tout à fait avide de réussite sociale et d'argent. De fait, il écrit sur le lucre de manière souvent très critique, mais c'est vraiment son positionnement politique à l'époque. Il est monarchiste légitimiste, même pas orléaniste, hein. Il est monarchiste légitimiste et catholique, on dirait maintenant catholique fondamentaliste. Alors,
N'importe comment, on ne va pas l'inviter à dîner, comme Caroline justement donne des éléments pour donc toutes ces autrices et puis ces personnages donc dans les romans policiers. Donc c'est pas grave, chacun peut avoir sa vision de Balzac.
Absolument. Et donc ce que je voulais dire, c'était pas tellement sur Balzac, c'était sur l'un de ses personnages qui s'appelle Bixiou. Et Bixiou, c'est un caricaturiste. Et Bixiou, alors, je devais en être, je ne sais pas, au 35e roman de Balzac que je lisais, ou en 42e, je ne me souviens plus. Et tout d'un coup apparaît dans l'histoire Bixiou. Et j'ai tendu la main pour lui serrer la main. C'est-à-dire, j'étais seul dans ma chambre, j'avais le livre dans la main gauche, et de la main droite, je tends la main. Et tout d'un coup, je m'aperçois, mais Jean-Manuel Bixiou, il n'existe pas. Et c'est donc la même sensation que j'imagine tu dois avoir avec ces héroïnes et ces enquêtrices. Nous lirais-tu donc deux ou trois autres caractères ?
Alors peut-être justement on a parlé de Zoé Libra, qui est l'italienne éboueuse. Donc je lis un petit extrait du portrait. La seule héroïne, c'est page 87, la seule héroïne éboueuse, détective à ses moments perdus, à moins que ce ne soit l'inverse. Elle est par ailleurs boulimique, grosse et moche d'après elle, et brille par sa grande liberté et son humour. Elle déteste les balances et considère le mot équilibré comme une insulte. Elle déteste aussi tout ce qui se rapproche de la norme et a un gros problème avec l'autorité. Elle a tout de la loser, sans aucune classe, sans argent. Elle se gave de junk food. Elle traîne deux gros chiens, l'un aveugle, l'autre sourd. Elle est seule maîtresse à bord de l'agence avec Lupin, une autre femme. Le patron n'intervient pas dans les enquêtes. Lupin, qui, même enceinte jusqu'au cou, continue d'enquêter sur le terrain, devient son ami et c'est Zoé qui mettra au monde sa fille.
Attends, prodigieux.
Voilà, dans un monde, j'ajoute, très matriarcal pour le coup. C'est quasiment un roman sans hommes, où les hommes sont des personnages secondaires, en fait, et qui jouent juste, qui sont là comme amants, amis, un petit peu...
Et les criminels sont des femmes ou des hommes ? Si tu te souviens.
Bonne question. je ne sais plus. Ça fait un moment que j'ai lu, mais je dirais que ça... Je ne suis plus très sûre.
D'accord. Christiane ?
Oui, moi j'ai très envie de savoir, Caroline, si tout à l'heure tu disais justement que dans les romans de polar classiques, c'était évidemment les mecs qui commettaient les crimes ou les serial killers, etc. etc. Et puis les femmes, c'était en disant, surtout il y a toujours ce problème de sexe, etc. Et c'était les victimes. Et alors là, justement, avec ces enquêtrices, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours aussi les femmes qui sont les victimes ?
Il y a de tout. En fait, ce sont quand même des romans extrêmement réalistes. Et la réalité, c'est que les femmes sont majoritairement victimes dans la société. Donc, on trouve beaucoup cette dénonciation des violences faites envers les femmes. Donc, on continue de voir beaucoup de femmes victimes aussi. Mais parfois, il y a des choses intéressantes où, effectivement, le meurtrier, en fait, c'est une femme, voire un couple de lesbiennes que absolument personne ne soupçonne, parce qu'on a tous des énormes préjugés, y compris parfois l'enquêtrice. Parfois, j'ai eu aussi une agresseuse sexuelle qui commet un viol, c'est une femme. Donc c'est aussi, les stéréotypes sont retournés, y compris quand il s'agit des assassins qui peuvent être des femmes, effectivement. Et la violence des femmes, elle est des deux côtés. En fait, je pense que c'est une fois, et ça, bon, c'est quelque chose que j'ai dit dans la préface aussi, mais c'est très important pour moi, c'est une fois qu'on a admis que les femmes peuvent être aussi violentes que les hommes, et qu'il n'y a pas de question de biologie là, derrière ça, c'est la condition première pour que les femmes puissent être de l'autre côté de la barrière et avoir accès à la force légale, à la violence légale, c'est-à-dire entrer dans la police, parce que les femmes n'ont pas toujours été admises ni dans la police ni dans les armées, y compris les armées révolutionnaires. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va ensemble. C'est parce qu'on a des personnes. Et à un moment, il y a un personnage très intéressant d'homme enquêteur qui le dit. Il dit, mais les femmes, elles sont... Il y a des femmes serial killers. Et donc, les femmes, elles peuvent aussi être chasseresses. Et donc, il accueille dans son équipe une femme en disant, voilà, on va la considérer comme n'importe quel collègue. Mais les deux sont vraiment liés, quoi.
Dans un musée tout à fait étonnant à Paris, dont je recommande la visite en particulier aux libertaires et aux anarchistes, et ce sera évidemment une visite non pas au second degré, mais au 44e degré, qui est le musée de la police, rue des Carmes, y a évidemment quelque chose sur les femmes meurtrières, sur les femmes assassines, homicides. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien que les femmes meurtrières, ce sont d'abord, avant tout et presque toujours, des empoisonneuses. Parce que bien entendu, les femmes, ça n'est pas capable de manier un couteau ou un marteau. Et en revanche, les femmes sont nourricières, donc fatalement, leur arme préférée, ça va être le poison. Donc, ce serait... Caroline, je sens qu'on va faire une deuxième émission, où toi et moi, avec Christiane, nous allons visiter le musée de la police et nous allons en faire un commentaire assez savoureux. Encore deux autres caractères, s'il te plaît.
Alors, peut-être pas un caractère, mais une citation pour cette fois. C'est, puisque tu parles d'armes et on parle, voilà. L'arme, c'est quelque chose de fascinant aussi. Moi, le personnage de la femme armée m'intéresse beaucoup parce que, à partir du moment où la femme a accès à une arme, comme les hommes dans la police, la question de la force physique se pose plus.
Excuse-moi de t'interrompre. Il est remarquable que Jeanne d'Arc, même si on la représente toujours avec une épée, on ne la représente quasiment jamais en train de donner le coup d'épée. Elle est représentée avec une lance, elle est représentée avec une épée, jamais en train de donner le coup. Vas-y, continue.
Et là, j'ai un personnage que j'adore, qui est fascinant. Donc, c'est un personnage d'une Française, Anne Rambach, qui a écrit plusieurs romans avec plusieurs héroïnes. Et elle, c'est Jung Go, qui fait partie d'une trilogie aussi parue dans les années 2000. Donc, peut-être je lis le début quand même du portrait. Vas-y. Brillante flic de 32 ans, Jung Go est née d'une mère japonaise exilée aux États-Unis. Visage oriental, mais réflexe américain. Elle aime la ville, travaille à Washington, les jeux vidéo et nourrit une passion obsessionnelle pour les armes à feu. Une vraie malade, selon ses mots. Un cas pathologique, d'après son collègue. Et voilà la citation que j'ai choisie pour la présenter. Parfois, Junko se demandait si elle n'était pas devenue flic pour l'arme de service. Le flingue, en l'occurrence son Desert Eagle 50 Action Express, c'était l'image même de l'harmonie. Junko était armée du pistolet semi-automatique le plus puissant du monde, deux fois plus puissant qu'un 357 Magnum. C'était de la pure folie de bosser avec cet engin. Une folie qui faisait rire Junko et lui faisait cracher des boules de feu. Mais elle maîtrisait parfaitement son pistolet. Après s'être entraînée des heures à soutenir le poids terrible de cette machine infernale. Une arme pareille leste le bras, le muscle. Ce n'est pas l'arme qui fait le prolongement du bras, mais le bras qui prolonge l'arme, comme si lui-même se transformait en acier.
La dernière phrase est vraiment très puissante, bon. Puisque l'idée, c'est que ce fantasme de devenir une machine, de devenir un être humain en acier, c'est le fantasme transhumaniste en ce moment.
Non, alors là, on n'est pas dans le... On est plus, moi je verrais plus, tu sais, le fantasme du chevalier avec son cheval, oui. Qui fait corps avec, qui... Mmh. Et c'est un fantasme de puissance. Bon. Et il y a une scène, Christiane, extraordinaire, où elle traque une meurtrière et toutes les deux se retrouvent dans un duel quasiment au corps à corps avec leurs armes qui se touchent. Et à un moment, c'est presque, elle dit, c'est presque comme faire l'amour. Il y a cette puissance qui est partagée avec un adversaire égal à soi-même, qu'on estime en même temps et qu'on combat. Et il y a quelque chose de très très beau, enfin de très fort et de... Bon, on est dans le symbolique ici, évidemment, mais je trouve que c'est assez fort. Et évidemment que l'arme, c'est la puissance. C'est pas par hasard que tous les grands justiciers, ils sortent leurs flingues, que tous les cow-boys, on a ce rêve quand même du type qui sait se défendre et à qui il peut rien arriver, il est armé. Et puis au niveau... littéraire aussi, on dit qu'on est armé, qu'on a des armes, c'est pas forcément un flingue, mais c'est simplement qu'on peut se défendre, qu'on n'est pas vulnérable. Et c'est super important pour une femme, justement, de sortir de cette vulnérabilité. On pourrait en dire long encore, hein, sur comment la société a rendu les femmes vulnérables, les a dépossédées de leur puissance. Donc pour moi, c'est une histoire de reconquête. Et l'arme, c'est un symbole, évidemment, c'est le symbole de cette puissance retrouvée. Voilà, la puissance des femmes.
Et dans les romans policiers. On pourrait faire une troisième émission avec les pacifistes et les non-violents.
Alors, là, tout de suite, je fais une petite coda, une petite astérix. Je suis fondamentalement non-violente et pacifiste. Mais là, justement, c'est exprès que je ne parle pas de pouvoir ni de violence. Je parle de puissance. Et justement, je citais dans mon premier livre des féministes allemandes dans les années... je ne sais plus si c'est entre les deux guerres, peut-être, qui étaient... anarchistes, féministes et pacifistes, et qui revendiquaient qui revendiquaient le service militaire pour les femmes. Et pourquoi ça? Parce qu'elles disaient, mais moi, si je veux m'opposer à la guerre, je peux pas, puisqu'on n'a pas, on n'y a même pas accès. Donc elles voulaient faire son service militaire pour pouvoir être objectrice de conscience. Mais comment on peut être pacifiste si on ne sait pas se battre? Et c'est exactement ce que disait Gandhi. Gandhi, il disait, voilà, la non-violence, c'est pas fuir quand votre village, il est attaqué. Ça, c'est de la lâcheté. Et il donnait des conseils à une femme. Pourtant, Gandhi n'était pas un modèle de féminisme. Il disait, si tu te fais attaquer, tu as des dents, tu as des ongles, tu t'en sers, tu te défends. Et bien sûr que la non-violence, c'est mieux. Et pour lui, c'était plus efficace. Et c'était évidemment quelque chose qu'il prenait. Mais c'est pas refuser de se défendre. Et les femmes ont été justement trop longtemps réduites à ce statut en fait réduites à l'impuissance, puisqu'on leur a interdit les armes tout simplement, et on leur a pas appris à se battre, et on leur dit que c'est pas leur rôle, etc. Bon, voilà. Donc c'est contre ça pour moi que lutte ce personnage. C'est contre l'impuissance. Mais avoir une arme, ça veut pas dire qu'on va l'utiliser, hein. Mais après que des femmes armées fassent des abus et abusent du pouvoir, évidemment, parce qu'elles ne sont pas meilleures que les hommes. Et à partir du moment où on va donner des armes à des policières, bien sûr qu'il y en a. Alors j'en ai une dans ma sélection qui, effectivement, elle est au début complètement hors du jeu parce qu'elle a fait une bavure, elle a tiré dans le dos d'un mec qui s'enfuyait, un jeune garçon. Voilà, la bavure. Bah oui, pourquoi les femmes, elles échapperaient à ça? Il y en a une qui revendique d'abuser du pouvoir. Alors elle se retrouve face à des hommes qu'elle va interroger et elle va s'amuser un petit peu à les... C'est pas de la torture, mais enfin, elle est harcelée. Oui, elle dit oui, j'abuse du pouvoir. Voilà, les femmes sont pas meilleures que les
hommes. Dans les camps de concentration à Ravensbrück, il y avait des SS femmes.
Bien sûr, mais voilà, ça fait partie de mes personnages. Il y a de tout dedans. Donc il y a celles qui refusent absolument d'avoir une arme par peur de s'en servir. Il y a celles qui l'ont et qui l'utilisent pas, et puis il y a celles qui abusent.
Il y a quand même une chose qu'il faut dire, puisque tu viens de parler de Ravensbrück et des camps de la mort et des camps de concentration. En général, les femmes n'étaient pas à la tête de ces camps. Elles étaient plutôt dans les capots et dans celles qui... encore une fois, c'était les sous-traitantes, on va dire. D'autre part, ce que je voulais dire également par rapport à justement ce besoin de puissance, de pouvoir, etc. Moi, je trouve être complètement, mais absolument antimilitariste, pour la paix, etc., etc. Et tu as des pulsions. quand tu te retrouves dans une certaine situation, bon, qui peut jurer qu'il n'a pas eu... Même on dit, oh là là, si j'avais eu une arme, ça aurait été terrible parce que j'aurais tiré dans le tas. Donc les pulsions, elles sont là. Qu'on soit un homme ou une femme, peu importe.
Et non.
Hein, je dirais même que les femmes ont... souvent n'ont pas ces pulsions d'autodéfense. Et ça, c'est, je reviens à King Kong Theory, hein, Virginie Despentes qui raconte, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de féministes de ma génération, comment elle, qui était une nana qui avait peur de rien, qui allait dans tous les festivals punk, qui côtoyait des tas de mecs, voilà. Et au moment où elle se retrouve en situation d'être violée, là, tout d'un coup, elle a un canif ou un cran d'arrêt dans sa poche, je ne sais plus exactement, et elle ne le sort pas. Elle ne le sort pas et elle s'est interrogée après pourquoi je ne me suis pas défendue. Parce que toutes les femmes, on leur a mis dans la tête, attention, le viol, c'est ce qui peut t'arriver de pire, tu es vulnérable, c'est affreux. Et on ne leur apprend pas à se défendre. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui change hein, petit à petit. Mais enfin voilà, il n'y a qu'à voir dans les Black Blocs, dans ma génération, il y avait une majorité de mecs. Ceux qui allaient à l'affrontement avec la police, c'était une majorité de garçons parce qu'ils savaient se battre. Moi, je ne savais pas. Dans les cours d'école, on ne m'a jamais appris. Et j'avais peur de la violence. Je crois que ça change pas mal. Mais moi, c'est un thème qui me tient à cœur, justement, l'autodéfense, etc. Parce que les femmes, là encore, ont été complètement dépossédées de ce réflexe qui fait qu'on t'attaque, tu te défends. Alors, parce que dans toutes les situations de viol, il y a la plupart... Il peut arriver que les femmes, elles aient la force physique pour se défendre, en fait.
Excuse-moi de t'interrompre là-dessus, on sait que dans la défense physique, en particulier au combat au corps à corps, c'est pas nécessairement la force physique qui est déterminante. Hein. Il y a des tas de femmes qui n'ont pas la force physique équivalente d'un homme et qui peuvent casser la figure, pour parler directement, à un homme qui les attaque. Si on a soit la bonne technique, deux, surtout comme tu dis, si on a surtout l'attitude
mentale
je ne vais pas me laisser faire. Alors là, une expérience de garçon. Moi, j'étais 2 ans plus jeune que tous les autres garçons dans les cours d'école. J'ai eu peur toute ma scolarité. Mais les rares fois où je me suis fait vraiment attaquer, vraiment, 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 eh bien, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fermé les yeux. Et puis, je me suis débattu dans tous les sens. Je ne savais pas où est-ce que j'allais taper. Et ça a fait peur à mes attaquants parce qu'effectivement, je tapais de toutes mes forces. Donc, comme je ne savais pas où ça allait... Ils ont compris que ça pouvait arriver dans leurs yeux, etc. Et effectivement, là, c'est sûr qu'il y a une différence entre les garçons et les femmes, même si j'étais un garçon qui avait peur des autres garçons, parce que je savais que j'étais beaucoup plus faible physiquement que tous d'entre eux. Malgré tout, il y avait cette idée de garçon, tu te défends. Alors même si je me défendais de manière très peureuse, je me défendais quand même. Nous lirais-tu ?
Attends, je voulais juste ajouter quelque chose justement par rapport à ce que tu viens de dire, Caroline. Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle « Cet hiver à Téhéran ». Et c'est l'histoire d'une jeune femme, donc réellement, qui a été... quelqu'un a fait une tentative de viol sur elle. Elle s'est défendue. Elle a pris un truc qui lui est tombé sous la main. Et c'était un couteau. Elle l'a poignardé et il est mort. Cette femme a passé 7 ans en prison parce qu'en fait, la loi, si tu veux, dit que finalement, le viol, c'est pas grand-chose. On est en Iran, hein, avec les mollahs. Hein. Le viol, c'est pas grand-chose et qu'elle, elle a tué quelqu'un. Bah, d'une part, elle n'avait pas du tout l'intention. Elle avait envie d'arrêter ce qui se passait et elle a été exécutée au bout de 7 ans.
Mamma mia. Histoire un petit peu meilleure, c'est une Danoise... une histoire absolument authentique, hein, une Danoise qu'un homme essaie de forcer à lui faire une fellation. Alors elle le regarde, elle ouvre la bouche, le gars la pénètre et clac, elle a mordu. Et alors comme c'était au Danemark, ça s'est quand même nettement mieux terminé pour elle. Caroline, nous lirais-tu un dernier de ces portraits absolument savoureux que tu as donné 101 fois dans ton livre « Enquête d'héroïne » paru chez Ressouvenance.
C'est difficile de choisir, mais celle-là, vous allez forcément l'aimer. Giulia Boccanera, dite Giu, française d'origine corse et italienne, c'est une héroïne de Michel Pedignelli, autrice contemporaine qui habite à Marseille. Premier roman paru en 2018. quinquagénaire sans enfant, grande consommatrice de café et insomniaque, ne buvant plus d'alcool depuis qu'elle a failli mourir d'une cirrhose à 22 ans, Diou est détective privée à Nice. Toujours habillée de noir et chaussée de Doc Martens, elle est réfractaire à toute forme d'autorité et déteste la norme. Anarchiste, elle n'aime pas les étiquettes. Elle a des convictions, mais surtout des doutes. Elle se méfie des flics, un seul étant fréquentable à ses yeux, le commissaire Santucci, avec qui elle vit pendant un temps. Elle aime les clashs, je passe un petit peu. Elle aime les clashs, elle dit détester la campagne, n'empêche qu'elle apprécie les forêts près de Nice et le maquis corse. Pour rien au monde, elle n'abandonnera son appartement dans le vieux Nice, sa petite place et son figuier. Je me suis trompée, hein, l'auteur vit à Nice, je pense. Et donc, citation de Diou. Je me souviens combien c'était agréable de boire, même seul. Un moment suspendu avant que la réalité des autres ne te rattrape. Une parenthèse flottante, hors du temps et des conventions. Cet espace de légèreté interdit par ailleurs. Car le monde n'est pas léger. Il fait la gueule en permanence. Le monde est lourd comme une putain de croix à porter juste pour pouvoir vivre dans une vallée de larmes. On a tous le droit de s'évaporer de temps en temps pour rejoindre l'insouciance qui s'est barrée on ne sait où.
Tu as bien raison, c'était un texte merveilleux.
مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق اومد و من دولت پاینده شدم دیده سیر است مرو جان دلیر است مرو زهره شیر است مرو زهره تو بنده شدم گفت که دیوانه رفتم و دیوانه شدم گفت که سرمست نی رو که از این دست نی رفتم و سرمست شدم رفتم و سرمست شدم
Oh,
Eh bien, vous êtes sur Radio Libertaire, l'ému s'amuse et vous venez d'entendre Liraz. Alors, c'est un personnage très intéressant qui t'intéresserait beaucoup, Caroline, puisque c'est une femme qui est à la fois israélienne et iranienne. Et en fait, elle a fait avec des musiciens iraniens un CD qui est complètement interdit, puisque entre l'Iran et Israël, c'est pas exactement ça. Mais elle a décidé que non. Donc, ils ont fait ça d'une manière... À travers les frontières, on va dire.
Puisqu'on parle d'Iran, je rappelle le magnifique slogan iranien « Jin, Jiyan, Azadeh ». La femme, la vie et la paix. Azadeh, ça veut dire, si je ne m'abuse, la paix, à la fois, en persan, et également dans les langues kurdes qui sont très voisines du persan. Alors, Caroline...
Si, merci. C'est le seul mot que je connais en iranien.
Oui, exactement. Ils ont repris le mot français complètement. Donc, merci Caroline. Ton livre, donc, ça s'appelle « Enquête d'héroïne » avec le calembour, parce que ce n'est pas une enquête, mais c'est être en quête d'héroïne, pas du tout la poudre blanche détestable, mais les héroïnes dans les romans. Policier. Tu as également écrit un autre livre. Aurais-tu la gentillesse de nous rappeler le titre de cet autre livre de 200 pages et des poussières ?
À armes égales.
À armes égales. Et c'est également une réflexion sur le roman policier. Et donc, pendant cette émission, eh bien, l'idée est venue que nous pourrions Caroline, Christiane et moi-même, aller visiter ensemble le musée de la police rue des Carmes et, vu les trois angles, les trois points de vue que nous pourrions en tirer, ça va être gratiné. On ne sait pas très bien si ça sera exactement la prochaine émission dans un mois ou si ce sera diffusé soit pendant l'été ou pendant l'automne, on ne sait pas. Mais attendez-vous à une émission qui va être légèrement inattendue pour le coup.
Et alors moi, j'ajouterais une anecdote personnelle qui va te rappeler beaucoup de choses, Caroline. C'était quand tu te rappelles, chez Lucio, il y avait eu donc une représentation du théâtre anarchiste qui a été fait par Monique. Et toi, tu étais à l'entrée, habillée en fliquesse, et tu demandais les papiers.
Alors, j'ai complètement oublié ça.
Maman, Caroline, c'est ton passé qui ressort.
Je vous jure, j'ai des témoins.
Je me souviens par contre qu'à la fin d'une pièce de Monique, j'avais le sifflet et je sifflais là, je ne sais plus quoi. Bon, mais c'est assez flou.
Alors là, non, tu étais à l'entrée. En costume de flic, avec une matraque sur le côté, et chaque personne qui entrait chez Lucio, donc, tu disais, vous avez au papier ?
D'accord, mais j'ai fait un débat il n'y a pas longtemps avec une policière, qui en fait me demande à la fin, et toi, est-ce que tu as rêvé aussi d'être policier ?
Trop beau !
J'ai dit non. Mais j'avais
tu
oublié
l'as
que
été,
voilà, c'était peut-être un
je
fantasme.
Je me demande même si je n'ai pas une photo. Je vais chercher dans mes archives.
Mamma mia, the dirty secrets of Caroline. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir entendus.
Je ne sais pas si je vais être réinvité après
non,
ça.
Non, c'est bon, tu vas être réinvité. Tu es pardonné. Donc, c'était à nouveau avec Caroline Granier, notre invitée, Christiane à la technique, Nestor Potkin, et on se voit dans 15 jours. Troisième lundi du mois pour le Proton se rebiffe avec un invité qui a fait des livres excellents, Édouard Jourdain. Un livre, alors il y a un premier livre totalement inattendu aussi, sur la comptabilité. La comptabilité, vu d'un point de vue politique, c'est super intéressant. Et puis un livre avec un thème qui...
Je trouve que tu manques d'imagination, tu as les flics non, les comptables non. Mais c'est quoi ce truc ? Moi, je sais pas, j'étais venue ici dans Radio Libertaire, pas d'hiérarchie, pas de... Et lui, il me sort, non, vous allez être étonné, ceci, cela. Franchement, tu me déçois.
Et l'autre bouquin d'Étoile Jourdain a un titre qui, évidemment, moi, me plaît beaucoup, Théologie du capital. Parce que, bien entendu, on sait que la religion et le fric, il n'y a pas beaucoup de différences et il y a des liens plus qu'incestueux. Mais donc ça, c'est donc dans le troisième lundi de ce mois de mai, je crois que ça sera le 15 mai, où nous aurons donc Édouard Jourdain et les prochaines muses, on verra bien ce que ça sera. Mais en tout cas, il y aura une émission à nouveau avec Caroline et le musée de la police. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.